RMC, Intégral Foot, Roland Courbis, Arnaud Souk.
Salut à tous, 16h05, bienvenue dans l'Intégral Foot ce soir jusqu'à 18h avec Coach Courbis. Salut Coach.
Salut les amis, salut à tous.
Avec toi, avec vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live. On va bien évidemment revenir sur la première rencontre disputée hier en Ligue 1. Par le prodige brésilien Neymar, il a marqué, il a délivré une passe décisive à Edinson Cavani. On a vu une belle entente d'ailleurs évidemment. Donc on va revenir sur cette première rencontre. On va aussi se poser quelques petites questions parce que bon, certes le PSG a gagné 3-0 face à Guingamp, mais tout n'a pas été parfait. On se pose des questions notamment d'un point de vue du système de jeu. On a vu des joueurs qui étaient un petit peu tous regroupés dans l'axe du terrain, des latéraux qui servaient finalement pas à grand chose. Donc on va se poser aussi la question tout à l'heure de savoir si l'entraîneur du PSG, Unai Emery, doit changer ou penser peut-être à changer de système de jeu. On parlera également tout à l'heure à 17h de Monaco. Monaco a-t-il besoin de Mbappé pour réussir? Finalement, la question là aussi elle est légitime hein, quand on voit la rencontre livrée par les Monégasques hier après-midi à Dijon. Victoire 4-1, triplé de Radamel Falcao, le super buteur qui a encore frappé 4 buts déjà depuis le début de la saison pour lui. Et quel but notamment, il avait marqué son deuxième but hier face à Dijon, une superbe frappe enroulée. Coach, tu l'as vu ce but exceptionnel de Radamel,
oui,
Falcao.
On peut même se demander ce qui était presque le cas la saison dernière de son retour à 100% après sa grave blessure. Mais là, ouais, peut-être il est à 95.
Ouais, en tout cas, belle rencontre livrée par Radamel Falcao et les Monégasques. Tiens, une rencontre, alors là, absolument rocambolesque. C'était hier à la Méno, Strasbourg face à Lille. Victoire des Strasbourgeois 3-0 avec 3 gardiens dans la cage lilloise pendant toute la rencontre parce que le gardien s'est fait expulser. Il n'y avait plus de changement disponible à ce moment-là. Ce qui fait qu'un premier joueur a pris, en l'occurrence Nicolas Préville, a pris la place de gardien à la place de Mignon. Et il a fallu encore qu'il y un autre joueur qui le remplace. Bref, tout ça, on en parle jusqu'à 18h dans l'Intégral Foot.
RMC Intégral Foot.
Mais d'abord, évidemment, les premiers pas de Neymar, vous les avez vécus sur RMC.
RMC Match Replay.
Salibur est brillant dans l'axe avec Neymar qui récupère le ballon dans le dos des défenseurs avec le ballon profond là pour Cavani. C'est tellement téléphoné. Attention! Le but contre son camp! Le but contre son camp! Le but contre son camp! Dit Coco! Le but contre son camp! De toute façon, Neymar avec Cavani. Cavani qui accélère. Cavani à frappe du droit! Et le but! Le deuxième but du Paris Saint-Germain sur la passe décisive de Neymar à la 62e minute. Le ballon est détourné par Rebocho. Cavani, Neymar! Et le but! Goal, Da Silva, Santos, Neymar Junior, pour son premier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain.
RMC Intégral Foot.
Jamais essayé.
Complètement barré ce mec-là.
Eh non, mais il est fou. Il est là. Il est à mes côtés. Bon, ça va. T'as arrêté de danser. T'as arrêté de. T'es plus calme là. C'est bon.
Ouais, jusqu'au prochain match.
Jusqu'au prochain match.
Salut coach.
Bonjour à tous.
C'est quoi ton prochain match, Jano?
Napoli-Nice, et puis ensuite il y aura Lyon-Bordeaux, et puis il y aura Paris-Saint-Germain-Toulouse, et vite Loïc Braillet revient de vacances pour qu'on puisse souffler un petit peu.
Voilà un programme.
Bon allez messieurs, je vous pose cette question, Neymar vous a-t-il convaincu? J'ai noté comme ça quelques petits chiffres sur ses statistiques d'hier. 128 ballons touchés, 77 passes dans le camp adverse. Alors il a quand même perdu 33 ballons, mais on va expliquer pourquoi. 11 dribbles réussis sur 16, et puis bien sûr une passe décisive pour Cavani et un but sur une passe décisive de Cavani. Bon, franchement, au début, c'était difficile quand même de faire mieux, coach.
Oui, complètement. Tu sais ce que je pensais de ce match-là. J'ai pas changé aujourd'hui, même si aujourd'hui.
Toi, t'aurais attendu 8 jours pour le mettre.
Ouais, donc j'aurais pas pris ce risque-là. En plus, il a joué tout le match après avoir été perturbé pendant plusieurs semaines, ce qui n'a pas été simple, que ce soit psychologiquement, nerveusement, physiquement. Et le jeu de mots, il est facile quand tu dis qu'il a marqué son but. Oui, il a marqué, mais il a surtout marqué les esprits. Et ce joueur-là, quand on le voit hier au milieu de ses coéquipiers, bah, tu n'as pas du tout l'impression qu'il est là depuis quelques jours seulement. Tu as l'impression qu'il joue les yeux fermés. Ce qui, d'ailleurs, ne confirme que ce que j'essaie de faire comprendre depuis des années, après on peut être d'accord ou pas, ces histoires d'automatisme. Évidemment que quand tu restes plusieurs semaines et plusieurs mois avec des coéquipiers, tu te connais de mieux en mieux. Mais si au départ, ce sont des grands joueurs et qui sont complémentaires, tu n'as pas besoin de jouer 6 mois avec Cavani pour arriver à lui faire une passe dans le trou s'il te fait un appel. Donc ça, il a démontré. Et sincèrement, on ne peut lui donner qu'un grand coup de chapeau parce que je l'ai observé comme jamais. Quand je regardais le Barça, je regardais en même temps Messi, Suarez, Iniesta. Et évidemment, je voyais un joueur capable d'accélérer, de dribbler, de faire la différence. Et hier, je regardais un petit peu ses déplacements.
Oui.
Ses déplacements sans ballon, ses vraies pistes, ses fausses pistes, ses contre-appels. Bah, là aussi, il est très fort. Et surprise pour moi, qu'il puisse être aussi bon en ce qui concerne les passes et cette rapidité de réaction et de décision pour pouvoir faire la bonne passe au bon moment. Là, il n'a pas que le numéro 10 dans le dos comme un numéro fétiche. Il a aussi les qualités d'un numéro 10 pour faire aussi des passes de grande classe.
Jeannot, l'impression de toi qui était à Roudourou hier pour commenter la rencontre, quelle impression il laisse finalement Neymar?
Tu te régales quand tu vois ce garçon-là réciter son football tout simplement. Après, on peut pas être surpris parce qu'on sait ce qui s'était passé de l'autre côté des Pyrénées, on sait ce qu'il était capable de faire à Barcelone, mais comme l'a dit coach, avec Messi, avec Suarez et avec d'autres joueurs, Busquets, Iniesta, pour ne citer que ces joueurs-là, là on a le sentiment que déjà c'était un aimant. Que dès qu'il bougeait, tout le monde a cherché à jouer vers lui, que ce soit Rabiot, que ce soit Verratti et Thiago Motta, la profondeur, sa disponibilité, sa façon de se déplacer dans les espaces, entre les lignes, et pourtant, Dieu sait si c'était pas évident sur les premières minutes, c'est vrai que son premier ballon, à bout de 20 secondes, il met un caviar à Di Maria.
Il a deux doigts de faire une passe décisive sur sa première balle en Ligue 1.
C'est déjà presque ce premier ballon qui peut être décisif. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a eu du déchet, il y a eu quelques mésententes avec Kurzawa, mais le fait qu'il pique dans l'axe et ça donnait des facilités à Kurzawa, et Dieu sait s'il faut pas trop lui en donner non plus des espaces parce qu'il a plutôt tendance à être offensif plus que défensif, mais quelque part ce joueur-là a bonifié le collectif du Paris Saint-Germain. Et quand tu entends, juste pour finir, Unai Emery dire c'est un vrai plus pour le collectif parisien, et derrière un Thiago Motta dire c'est un privilège de jouer avec ce garçon-là, ça résume tout simplement l'importance de Neymar aujourd'hui dans le système de jeu parisien, qui va très certainement dans les prochaines semaines s'améliorer.
On va en reparler du système de jeu tout à l'heure. Juste, tu disais il y a du déchet, c'est vrai, 33 ballons perdus sur les 128 qu'il a joué, mais coach, finalement ça s'explique assez facilement. Moi c'est simple, dans le match je ne vois Neymar jouer à deux ou trois exceptions près que vers l'avant. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment aussi tu perds des ballons, et puis c'est 33 ballons perdus.
Une fois il décroche, une fois il est à la hauteur de la ligne médiane.
Ouais.
Mais c'est tout quoi.
Voilà, c'est bon. Une fois à droite, c'est que des ballons vers l'avant, donc c'est après, normal.
Aujourd'hui, nous, avec beaucoup d'enthousiasme, un enthousiasme logique, on ne peut parler que du match de Neymar contre Guingamp sans pouvoir faire de comparaison avec un autre adversaire dans un autre contexte. Il y aura le Paris Saint-Germain du Parc des Princes avec le comportement de certaines équipes en face, des déplacements. Hier, ce que je souligne, c'est que chose que n'a pas fait le Paris Saint-Germain, c'est que Guingamp a eu le culot de mettre, et bravo pour eux, de mettre un quatuor offensif avec l'espoir de poser des problèmes au Paris Saint-Germain. Ça n'a pas trop été le cas, mais l'intention y était. Donc, j'attends pour moi avec impatience les prochains matchs, mais ce premier match de Neymar, après la période qu'on vient de traverser, c'est sûr qu'on ne peut que lui tirer un grand coup de chapeau.
Tiens, et on vous pose la question sur le Twitter de RMC Sport. Neymar, vous est-il convaincu pour l'instant à 71%? Évidemment, vous nous dites que c'est des débuts réussis. On a Olivier, supporter du PSG, qui a fait le 32-16 pour en parler. Salut Olivier.
Salut messieurs, bonjour Jeannot, salut coach.
Bonjour, salut Olivier.
Qu'est-ce que t'en penses toi de ces débuts de Neymar? Ça y est, enfin sur le terrain. T'étais ravi, bon, j'imagine. Alors...
Non, mais moi je suis intervenu plein de fois. Je vous appelle très régulièrement. J'ai appelé il y a pas très longtemps. On en avait parlé avec coach sur le débat avant qu'il arrive. Donc je vous ai entendu là un petit peu. J'ai pris l'émission en cours, un peu comme Jeannot. Honnêtement, je pense que coach a dit la même chose. Convaincu de qui, de quoi? On parle là de, à mon avis, dans les 2 ou 3 ans à venir, du futur Ballon d'Or. On va pas être convaincu du match qu'a fait Neymar contre Guingamp. Excusez-moi, j'adore Guingamp. Je trouve que c'est un petit club super bien. Il n'y a aucune ambiguïté par rapport à ce club-là. Non, mais... On va quand même pas Non, non, mais je veux juste finir, parce que j'en ai parlé justement. Quand je vois les notes dans l'équipe, c'est pas du tout pour comparer, mais quand je vois Falcao qui met 3 buts contre Dijon, qui prend un 8, et je vois Neymar qui fait un super match contre Guingamp qui prend un 8, ce que je veux te dire, c'est un joueur qui reste très simple, qui reste très disponible, très charmeur, et donc qui s'intègre très vite, à mon avis, au pays, ce qui n'a pas été le cas d'Ibrahimovic. Il n'y a pas l'arrogance qu'il pourrait y avoir de certains grands joueurs, des Ronaldo et tout ça. Donc je suis pas du tout, j'avais pas du tout à être convaincu. Je suis persuadé que l'intégration va se faire extrêmement vite. On a l'impression que ça fait déjà 6 mois qu'il est là, alors que il a voyagé de pays en pays, de navion en avion. Donc quand il va être au top,
c'est ça l'idée qui est formidable justement. C'est en ça qu'on voilà. te demande aussi si t'as été convaincu, qu'il s'intègre tout de suite dans un collectif.
Il est un peu chez lui. Il est un peu chez lui. Le PSG, ils ont un maillot brésilien. Ils ont la moitié de l'équipe qui est brésilienne. Il y a Maxwell qui est brésilien, donc il y a aucun problème. Mais ce que je veux dire, moi en tous les cas, ce qui m'a convaincu hier, c'est qu'il y a certains joueurs, je voulais juste te dire ça, je suis supporter de PSG depuis les années 80, je suis convaincu d'une chose, l'année dernière il y a eu le naufrage en partie grâce à Neymar, parce que si Neymar n'est pas là au match retour, il n'y a pas ce match de Barcelone, il n'y a pas la remontada, ça on le sait, c'est le seul qui au match aller avait essayé, voilà, il est toujours vers l'avant, c'est qu'il tire l'équipe effectivement vers l'avant, preuve, le ballon qu'il dépose sur la tête de Marquinhos sur une action de jeu, Marquinhos est défenseur central, il se retrouve dans la surface de réparation, on ne voit pas ça en temps normal sur
ça,
les corners.
Ça faisait suite à un coup de pied arrêté, c'est pour ça aussi que Marquinhos était encore dans la surface de réparation.
Ce que je veux te dire, toi Jeannot qui suis souvent Paris, c'est que là hier j'étais convaincu d'une chose, et coach en a parlé, c'est qu'il y a certains joueurs qui veulent se dire très grands joueurs, et je prends un joueur que j'adore, c'est Verratti, mais qui ont intérêt à hausser leur jeu vraiment de façon très rapide pour être à la hauteur des joueurs qui entouraient Neymar à Barcelone. Parce que Verratti, en ce moment, il est vraiment mais à côté de ses
comptes. Il est agacé, hein.
Honnêtement, honnêtement, depuis 5-6 ans, c'est le joueur que j'adore. Mais là, ses caprices depuis 2-3 ans, tous les ans, à demander l'augmentation, à dire je veux. Là, il voulait partir à Barcelone, mais excusez-moi, Verratti, c'est un joueur qui est d'un talent, c'est comme des Pogba et tout. Mais il y a un moment, c'est pas le tout de le dire que t'es talentueux ou de l'entendre dans la presse, tout ça, d'être un petit peu mis sur un piédestal. Il faut peut-être un peu le montrer. Et là,
Olivier,
là, autour de lui, il a Neymar. Là,
est-ce que tu n'as pas le sentiment que si tu enlèves un milieu récupérateur et que tu te retrouves avec Verratti plus X, Y ou Z, tu faciliteras le jeu de Marco Verratti?
Moi, je te dis, Jeannot, j'ai regardé l'équipe et là, je suis quasiment sûr que coach va être d'accord avec moi. Moi, Verratti, il est indispensable dans son travail défensif et même vers l'avant, c'est le joueur. Mais il y a Rabiot qui est en train de percer. Mais là, moi, hier, ce que j'aurais aimé, c'est que quand Verratti, je sentais qu'il était vraiment pas dans le coup et que Paris était défensivement, on les sent vraiment bien en place, toute l'équipe fait l'effort, y compris Neymar qui revient comme Cavani, c'est que j'aurais aimé que Pastore vienne et que Verratti sorte. Parce que Verratti, je le sentais pas du tout. C'est trop facile de déposer. J'aurais bien aimé qu'on me donne le nombre de ballons touchés par Verratti qui est à peu près la moyenne.
C'est ce qui s'est passé, mais à la 80e minute. C'est ça le problème. C'est ce qui s'est passé, mais à la 80e minute, quand Pastore a remplacé Verratti.
On remercie Olivier d'avoir fait le 32-16 supporter du Paris Saint-Germain. Bah, petit coup de gueule d'Olivier. On va en reparler un petit peu tout à l'heure là de ce changement éventuel de système de jeu ou en tout cas voilà des joueurs qui pêchent un petit peu. Tiens, coach, je voulais qu'on revienne aussi sur quelque chose qui n'est pas un détail à mon avis dans la rencontre d'hier, au-delà du but et de la passe décisive dont a été auteur Neymar hier. Finalement, Jeannot, tu me contrediras pas, il y a quand même une relation qui s'est créée entre Neymar et Cavani. Tu en parlais en préambule un petit peu, coach.
Pas si évidente que cela. Parce que avant la passe décisive, dans la globalité, il était à autour de 10 ballons pour Cavani, Neymar. Il a trouvé Di Maria et il a trouvé Thiago Motta, surtout dans ce rôle de relais et de piston où Thiago Motta a remis des ballons dans l'espace pour Neymar. Mais je trouve que ça a été très long justement par le fait que les déplacements de Verratti, de Cavani, pardon, n'étaient peut-être pas toujours compris par Neymar de par le fait qu'il arrivait dans l'axe. Oui. Parce que quand tu regardes la zone d'évolution, et c'est très bien fait chez nos confrères de l'équipe ce matin, il part de la gauche, il vient dans l'axe. Et si tu continues comme ça, imagine que tu mettes un Matuidi à la place de Rabiot, mais c'est le foutoir complet. Au milieu de terrain, tu arriveras pas à justement profiter de ce que peut t'apporter Neymar. Mais aujourd'hui, le vrai souci du Paris Saint-Germain, c'est l'équilibre. Et l'équilibre, c'est qu'il y a, à mon sens, on en a parlé hier soir avec Pierre Ducrot, il y a trop de milieux récupérateurs relayeurs. Le 4-3-3, pour moi,
on va y revenir.
Il sert pas à grand chose, quoi.
On va y revenir sur ce genre de match. Sur la relation Neymar-Cavani, toi, coach, qu'est-ce que t'en
penses? Oui, je pense qu'il est tout à fait logique qu'il y ait une période de tâtonnement. Mais avec les appels que fait Cavani et l'habitude qu'a Neymar de pouvoir faire la passe juste au moment juste et de décider assez rapidement de ce qu'il faut faire, parce que souvent on se mélange un petit peu les pinceaux, on parle d'un joueur, on dit lui il est rapide, l'autre il est moins rapide, on pense tout de suite à une course, on pense tout de suite à Usain Bolt, on pense tout de suite à la course rapide. Mais là, c'est la réflexion chez Neymar qui est rapide, les passes elles sont justes, alors que Cavani et puis être surpris aussi par moment. Bah allez, ça va pas durer 6 mois, hein, dans 8 jours, l'affaire elle est réglée. Mais par contre, ce qu'on a pu constater hier, et là je pense que c'est Neymar qui a dû prendre la responsabilité, et j'espère qu'il en a discuté avant avec son coach, c'est qu'on pensait voir un Neymar à gauche, on pensait voir un Di Maria à droite, on a vu plutôt souvent un Neymar dans une position de 9,5 ou de numéro 10, c'est-à-dire en retrait du numéro 9 qu'est Cavani. Mmh. Donc ça devrait donner des idées à Emery pour pouvoir mettre en place une autre organisation, oui. Ce qui ne veut pas dire que le 4-3-3 doit être abandonné complètement, oui. Mais j'espère que on va pas laisser systématiquement sur la touche des Pastore, des Lucas, des Draxler. C'est quand même un énorme gaspillage pour moi.
On va y revenir à 16h21 dans l'intégrale foot sur AMC. On va faire une petite pause. On revient dans un instant. Donc pour parler justement de cette question, Emery finalement doit-il changer le système de jeu? C'est aussi l'un des enseignements, peut-être en tout cas ce que les observateurs ont relevé hier à l'issue de la rencontre entre le PSG et Guingamp, cette victoire 3-0 des Parisiens de Neymar à Roudourou. Bah voilà, il y a plein d'options possibles, 4-2-3-1, certains parlent même de 3-5-2. On en parle dans un instant avec vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live avec coach Courbis et Jeannot Essayé. À tout de suite.
RMC Intégral Foot, Roland Courbis, Arnaud Souk.
16h23 sur RMC, c'est l'Intégral Foot avec coach Courbis, avec Jeannot Essayé. Évidemment, on continue à débriefer la rencontre, la victoire du Paris Saint-Germain de Neymar hier 3-0 face à Guingamp. Neymar qui a marqué, Neymar qui a également délivré une passe décisive, mais finalement, on a aussi l'impression quelque part que cette victoire, coach, alors je sais pas si toi tu la vois un petit peu comme ça, moi j'avais envie de dire c'est un petit peu la victoire des talents individuels, un petit peu moins du collectif hier.
C'est-à-dire que pour le moment, on peut si tu veux réfléchir à plusieurs choses. Il y a un an de ça, nous étions dans un débat avec un nouvel entraîneur qui est toujours le même, c'est-à-dire Emery, qui arrivait au Paris Saint-Germain, avec, bon, paraît-il, Ben Arfa, c'était pas lui, Kriskoviak, c'était pas lui, Ressé, c'était pas lui. Donc, si tu veux, l'entraîneur qui débarque avec un groupe à gérer et de gérer de la meilleure façon. Donc, tous les entraîneurs ont plusieurs organisations, c'est-à-dire plusieurs formules. Et après, il y a une différence entre arriver dans un club avec un effectif déjà en place, et là, à ce moment-là, tu es obligé de chercher la meilleure formule compte tenu des points forts et des points faibles de ton effectif. Mais après, quand ça fait un an que tu es à l'intérieur de ce club, tu peux demander à tes dirigeants de récupérer tel ou tel joueur comme renfort pour pouvoir mettre en place ton organisation préférée, ce qui n'empêche pas qu'il en existe une deuxième, voire une troisième. Et là, pour le moment, j'essaie de comprendre. Emery, pour moi, c'est un collègue de profession. Je sais très bien que dans cette profession, des conneries, on en fait tous. Mais après, il faut être cohérent pour ne pas être critiqué, parce qu'arrivé à un certain moment, tu seras critiqué tout simplement parce que tu es critiquable. Si après l'intersaison et après un an au Paris Saint-Germain, quand il y a la réception d'Amiens au Parc des Princes avec la présentation de Neymar, ta formule préférée pour battre Amiens dans un premier match, c'est avec toujours Verratti, Rabiot ou Matuidi et Thiago Motta et seulement 3 offensives, eh ben c'est une découverte pour moi. Je pensais que Emery avait eu la saison dernière l'intention de mettre 4 offensifs et 2 milieux récupérateurs et se servir éventuellement du 4-3-3 en cours de match ou dans un autre match, et après avoir discuté avec ses joueurs, dans une réunion où les cadres ont parlé, il est revenu aux habitudes des joueurs de Paris Saint-Germain, avec le traditionnel Verratti, Thiago Motta, Matuidi. Un an après, c'est toujours ça. Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, il signe Mbappé, j'essaie de comprendre, et vous me dites si je me trompe, je ne me vexerai pas. Il signe Mbappé. On met en place une attaque avec Mbappé, Cavani, Neymar. Et vous allez me dire que sur le banc, il va y avoir Pastore, Di Maria, Lucas et Draxler. Mais après, il ne faudra pas se plaindre d'être jalousé. Parce que si tu as le luxe, j'appelle ça, et la chance de pouvoir mettre ces quatre joueurs, quand je dis la chance, après tu te démerderas de les gérer. Hein,
ouais.
Donc, c'est tout simplement ingérable. Mais si tu as la chance et la possibilité d'avoir ça, ne te plains pas. Après, d'être encore plus jalousé, tu l'es déjà par rapport aux moyens de Paris Saint-Germain, mais là, on appelle ça chercher le bâton pour se faire frapper, même si pour moi, avec cette équipe-là, 4-3-3 ou 4-4-2 ou 4-2-3-1, tu termineras premier.
Oui, oui. Après, coach, attendons la fin du mois, attendons le mercato, d'abord parce qu'on ne sait pas si Mbappé va finir par arriver, et si on a bien compris...
Non, j'ai dit dans le cas...
Voilà, mais c'est une vraie opportunité, une vraie possibilité, mais les dirigeants monégasques vont peut-être faire traîner le dossier. Après, tu ne sais pas si Di Maria sera encore là, et tu ne sais pas si Matuidi, par exemple, sera encore là. Donc,
oui, complètement.
Moi, je te suis à 200% sur la mise en place tactique de Unai Emery. Il va falloir que, dans le courant du mois d'août, et surtout après la fin du mercato, qui nous montre autre chose dans la façon de construire son équipe, pour que justement on ait le sentiment que ce Paris Saint-Germain là avec Neymar, parce que ce dont parlait coach, il n'y avait pas Neymar contre Amiens et il y avait quand même cette prudence là. On verra peut-être qu'on aura une indication dimanche prochain contre Toulouse, mais il est évident que si on veut voir un PSG encore plus offensif, avec beaucoup plus, une meilleure utilisation des espaces, il faut enlever un récupérateur.
C'est-à-dire, ne passons pas d'une extrémité à l'autre et ne me faisons pas dire ce que j'ai pas dit. Pour moi, pour pouvoir progresser, il y a certains modèles. Le modèle de la saison dernière, il s'appelle Monaco. Et donc, à partir du moment où du côté de Monaco, il y a eu un Jardim, dans un premier temps, prudent, il y a 2-3 ans, et dans un deuxième temps, il a réussi à trouver un équilibre avec un quatuor offensif. Je pense que c'est possible du côté de Paris Saint-Germain. Donc, maintenant, on regarde ça comme des passionnés que nous sommes, mais je le dis suffisamment tôt, si par exemple... il venait à y avoir des contre-performances, automatiquement, les contre-performances, ça serait que on est trop prudent, on est trop fébrile, et ça, c'est Emery qui doit passer le cap. Moi, je pense qu'il en est capable.
Je me pose une question aussi, coach. Quand tu vois l'intérêt hier et la plus-value, enfin ou plutôt la moins-value, dans Lévin Kurzawa sur le terrain, sur le côté gauche de la défense, est-ce que là aussi, c'est pas un petit peu inutile finalement d'avoir cette défense à 4, sachant que Daniel Vest passe son temps dans la moitié de terrain adverse, sachant que Kurzawa n'apporte strictement rien. Est-ce que tu peux pas...
Mais tu l'as eu la défense à 3. Tu l'as eu presque automatiquement avec Thiago Motta, Marquinhos et Thiago Silva.
Tu l'assumes et tu mets un joueur offensif à la place de mettre un Lévin
automatiquement, voire même naturellement.
Mais ce que je veux dire, c'est que tu l'assumes en mettant un joueur sur le terrain qui a vocation offensive et pas un joueur comme Lévin Kurzawa qui rate à peu près tout ce qu'il fait.
Ce que nous dit coach, c'est plus un 4-4-2 par rapport à ce que faisait Monaco. Donc ça veut dire une association soit Cavani, Mbappé, ou soit pour l'instant parlons des joueurs qui sont là, soit Cavani avec Neymar, et la possibilité d'utiliser un Pastore ou un Draxler juste derrière. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, Unai Emery est obligé d'ouvrir son schéma de jeu.
Ce qui ne veut pas dire qu'en cours de match, tu pourras pas passer avec cette organisation-là, tu pourras pas passer en 4-3-3, tu pourras terminer les matchs en 4-3-3, tu pourras contre certains adversaires les démarrer en 4-3-3 et les terminer en 4-2-3-1 et d'arriver à voir que en plus des qualités individuelles, ce Paris Saint-Germain là est capable en cours de match de dérouter encore plus l'adversaire, et je pense pas dans des matchs contre Guingamp qui est une bonne équipe de Ligue 1 de milieu de tableau. Je pense pour la Champions League, et je pense quand on rencontrera des cracks du côté de Paris Saint-Germain, et je dis on parce que c'est le football français qui est représenté par ce Paris Saint-Germain là. Donc c'est tout. Si par exemple je vois dans les prochains matchs, eh bien, toujours ce 4-3-3 avec Verratti, Thiago Motta, Matuidi ou Rabiot, eh bien je dirais pourquoi pas, ça peut marcher aussi, mais je trouve que c'est dommage de voir Guingamp chez lui être dans l'intention, après il y a l'intention et ce que tu peux faire plus offensif que le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire en mettant un quatuor offensif dans l'espoir de poser des problèmes au Paris Saint-Germain. Je suis un petit peu surpris, je peux l'être.
Allez, on continue d'en parler dans un instant de cette rencontre, cette victoire du Paris Saint-Germain hier avec ce 3-0 à Guingamp. On sera justement avec le premier joueur à avoir pris un petit pont dans quelques instants, un petit pont de Neymar en Ligue 1. 16h31, on récapitule toute l'actu sport. Avec Aurélien Tiersin, salut Aurélien. Et on parle d'abord donc du retour des héros de Londres en France.
Évidemment, Kevin Mayer et Johan Diniz avec leur médaille d'or autour du cou. Les champions du monde du décathlon et du 50 km marche sont arrivés à Paris, gare du Nord, en tout début d'après-midi. Ce n'était pas l'énorme bain de foule, une trentaine de supporters, quand même un accueil très chaleureux. Le rêve de Kevin Mayer continue.
Je viens à rêve éveillé, surtout que je manque énormément de sommeil, donc je suis vraiment dans un état second là. Je sais pas trop ce qui m'arrive. Non, clairement, il y a une alchimie qui se passe dans mon corps qui fait que j'ai pas réussi à dormir depuis la fin du décathlon. J'ai dû dormir 4 heures. Je me suis réveillé à 7 heures le dimanche matin alors que j'avais jusqu'à 11 heures pour dormir. Et cette nuit, j'ai pas dormi, bien sûr, on l'a fêté. Donc c'est une sensation unique de légèreté. J'ai pas de sommeil, j'ai mal partout, mais je me sens bien. Et ça, c'est hallucinant. J'ai l'impression de me sentir imprenable maintenant. Je me sens sur mon nuage, quoi. Bon, maintenant, j'aimerais bien que mon corps me laisse dormir ce soir parce que ça commence vraiment à être dur, quoi.
Le rêve de Kevin Mayer, tout comme celui de Johan Diniz ou de Mélina Robert Michon en bronze au lancer du disque. On les aura tous en direct sur RMC Sport, les héros français, dans l'intégral sport à partir de 18h. La sanction est tombée, ça y est, pour Cristiano Ronaldo. 5 matchs de suspension, ça aurait pu être pire, et monté jusqu'à 13 rencontres. Le Portugais sanctionné pour avoir poussé l'arbitre du match entre le Barça et le Real hier soir.
RMC, le Mercato Show.
Le Barça se remplume un peu après le départ de Neymar au Paris Saint-Germain. Les Catalans le remplacent par un autre Brésilien, Paulinho. 40 millions d'euros pour le milieu défensif de 29 ans. Il jouait en Chine pour le Guangzhou Evergrande. Cet international brésilien jouait avant pour Tottenham en Première Ligue. Ousmane Dembélé, lui, est toujours dans le flou. Selon le quotidien catalan Sport, Dortmund aurait accepté une offre de 100 millions d'euros du Barça. Mais des divergences existent autour des bonus. Rien n'est fait à l'heure actuelle. L'autre piste de Barcelone mène à Philippe Coutinho. Le Brésilien de Liverpool n'est pas dans le groupe anglais pour jouer Hoffenheim demain soir en barrage aller de la Ligue des Champions. Son coach Jürgen Klopp ne l'a pas retenu. Un rebond, il l'espère. En tout cas, Marvin Martin, après Lille et Dijon, l'international français devrait jouer en Ligue 2 cette saison. Il est en contact avancé avec le Stade de Reims et pourrait s'engager dans la semaine. Ça joue en Ligue 2 ce soir, 2 matchs au programme. D'abord avec les Merlus, le FC Lorient accueille Châteauroux à 18h45. Puis à 20h45, Nîmes affronte l'AS Nancy Lorraine. Les Lorrains en difficulté avec un seul point pris depuis le début de la saison. Des nouvelles de Teddy Riner. Le judoka est absent des tatamis depuis sa médaille d'or olympique à Rio l'année dernière. On sait déjà qu'il ne sera pas tête de série pour les championnats du monde en Hongrie. Dans 15 jours, il est redescendu au 14e rang mondial. Et en tennis, enfin, 5 Français sont en lice au Masters 1000 de Cincinnati. Ce soir, d'abord Richard Gasquet. Il sera sur le court dans une demi-heure face à l'Australien John Patrick Smith, un joueur sorti des qualifications. Et enfin, puis à 18h30, pardon, Benoît Paire jouera contre un Américain, Mitchell Krueger. Et plus tard dans la soirée, on aura droit à Kristina Mladenovic et Océane Dodin chez les dames. Pour terminer à 3h du matin avec Gaël Monfils.
Et merci Aurélien, on te retrouve tout à l'heure à 17h30.
RMC, Intégral Foot, Roland Courbis, Arnaud Souk.
L'intégral foot jusqu'à 18h, tiens, tout à l'heure à 17h, on vous posera cette question. Monaco a-t-il besoin de Mbappé pour réussir? En attendant, on continue à parler du Paris Saint-Germain, le PSG qui s'est imposé hier 3-0, grâce notamment à un but de Neymar face à Guingamp. Et on est en ligne avec Lucas Do, le milieu de l'en avant. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Salut Lucas.
Bon, j'ai envie d'évacuer tout de suite la question. Vous resterez comme le premier en Ligue 1 à avoir pris un petit pont de Neymar. Vous êtes dit quoi sur le coup?
De toute façon, avant le match, je savais que ça serait pour moi, je pense, parce que j'ai l'habitude d'en prendre. Donc,
Non, mais il t'a pas fait regretter d'être sorti à l'échauffement avec le numéro 10 dans le dos?
Non, c'est... Ah bon. Franchement, c'est un détail, je m'en fiche. Après, s'il réussit, bah, s'il réussit à passer après le petit pont, c'est différent, mais là il a l'aube, donc ça va, tant mieux pour moi. Mais bon. C'est pas grave.
Lucado, on sent face à un joueur pareil que je sais pas qu'il y a quelque chose de peut-être de différent qui se passe sur le terrain.
Ouais, franchement, clairement, hein, c'est un délire hein, ce mec. Hein. Je sais pas s'il est humain ou quoi, mais moi j'ai découvert un sacré phénomène. Hein. Je savais pas que c'est à la télé, j'avais déjà vu, mais en réel. C'est incroyable. Quoi.
Ben moi, Lucas, je sais pas si c'est pareil sur le terrain. Je l'avais toujours vu comme quelqu'un avec des qualités de dribble, d'accélération, un petit peu comme Dembélé, tu vois. Mais par contre, les déplacements sans ballon, la façon de se démarquer et sa qualité qualité de passe, je ne lui pensais pas une qualité de passe comme ça.
Ah ouais, c'est clair. Les appels contre appels qu'il fait sur un ou deux mètres, ses prises de balles, c'est déroutant. Et puis il suffit que dans le dos, nous, il se met toujours entre les lignes. Il suffit que le défenseur nous dise droite, au moment où il nous dit droite, il se met à gauche et inversement. Donc c'est un calvaire pour défendre sur lui. C'est chaud. Et puis on peut faire des prises à deux, à trois, le mec il s'en sort. C'est un génie, hein, vraiment. C'est incroyable.
Par rapport à ce que vous aviez prévu, bon, et souvent, je disais tout à l'heure, on a l'intention, ce qui est déjà une très bonne chose. Et malheureusement, ben, l'intention reste l'intention, mais on n'a pas pu faire ce qu'on avait envie de faire. Vous avez quand même démarré le match avec quatre milieux offensifs dans l'espoir de faire mal à cette équipe de Paris Saint-Germain à la moindre occasion. Je dirais pas de les battre, pourquoi pas, puisque ça avait été réalisé la saison dernière, mais au moins de leur poser des problèmes en marquant allez, un but, en étant dangereux, en les faisant un petit peu douter. Et ça, c'était certainement ce qui était prévu, tu peux me le confirmer, mais malheureusement, on ne l'a pas beaucoup eu.
Ouais, c'est le coach qui avait fait ce choix-là. Après, il nous a avoué lui-même qu'il avait du mal à composer le 11 de départ parce que il y avait pas mal de joueurs qui avaient été performants la semaine passée contre Metz. Il avait fait des choix plutôt forts parce qu'il a sorti des mecs qui étaient titulaires la semaine d'avant et il a fait le choix de jouer avec quatre attaquants pour, comme vous avez dit, à la moindre occasion, essayer de faire mal. Là, en l'occurrence, surtout en contre, parce qu'en attaque placée, c'est toujours compliqué. Dès qu'on fait une passe vers l'arrière ou une passe latérale, tous leurs blocs ressortent de 5 ou 6 mètres. Donc, tout de suite, on sent qu'on a la pression. Et après, on court de longues minutes après le ballon. Quand on la récupère, on souffle, on se dit « Ah, enfin, on l'a récupéré », sauf que c'est là que le plus dur commence.
Ouais.
Parce que c'est là où il faut la ressortir vite, juste et bien, et essayer de jouer vers l'avant. En fait, il y a pas beaucoup le temps de gamberger et puis on se retrouve facilement à 3-4 mecs qui viennent nous presser, donc c'est hyper difficile.
À Lucado, le milieu de Guingamp est l'invité de l'intégrale foot sur RMC. Question de Jeannot Rességuet qui a commenté la rencontre hier.
Oui, bonjour Lucas. Ikoko, face à Neymar, c'est vrai que nous on avait en conférence de presse insisté là-dessus en disant vous allez être le premier défenseur face à Neymar, mais vous l'expliquez tout à l'heure, vous vous attendiez vraiment à ce qu'il repique autant dans l'axe, qu'il vienne casser entre Carbrat et Dido ou entre Sorbon et vous au milieu de terrain, c'est quelque chose que vous aviez évoqué en amont avec Antoine Comboiré, un peu ou autant ou énormément comme ça a été le cas quand on regarde le déplacement de Neymar sur le match.
Non, on pensait peut-être pas autant, mais on savait que bon sur la vidéo, ça fait de nombreuses années quand même qu'ils jouent avec leurs excentrés vachement intérieurs, ce qui permet à leurs latéraux de jouer très haut. Et en fin de compte, ils se retrouvent à 5 à construire le jeu dans l'axe avec les deux centraux, leurs trois milieux. Et puis après, ils ont une autre ligne de 5 très offensive avec leurs deux latéraux et leurs trois attaquants qui sont quasiment axiaux. Et ce qui fait que quand on défend en zone, forcément, c'est plus compliqué parce qu'il faut se passer les mecs. Des fois, il y a deux mecs qui sont dans la même zone. Et ça fait que le latéral, il se retrouve tout seul. Il sait pas trop s'il doit rentrer. S'il rentre, il se fait avoir parce que le latéral, il part dans son dos. Donc le coach, il avait insisté en disant que des fois, fallait aller faire des prises à deux, à trois. Mais c'est vrai qu'il s'est pas retrouvé tant de fois que ça, vachement excentré. Il était beaucoup intérieur. Mmh. Et puis, le truc, c'est que dès sa première touche ou sa deuxième touche, sa prise de balle, il était tout de suite vers l'avant. Il avait déjà un mètre d'avance. Après, il a tout le loisir de faire la passe ou le choix qu'il faut, parce qu'il, sur son contrôle, il s'est bien mis dans les bonnes dispositions pour être propre et juste après, quoi.
Lucado, avec Étienne Didot, vous êtes meilleur récupérateur relayeur sur ce que vous avez vu du PSG hier soir. Paris a besoin de jouer avec Verratti, Thiago Motta, Rabiot. Il y en a pas un de trop, sur ce que vous avez pu voir ou sur votre ressenti du football?
Moi, je pense que, enfin, ce qui pourra encore faire plus mal et qu'ils ont pas trop fait encore hier, c'est si un de leurs milieux qui plongeait, ce que fait beaucoup Matuidi, même si j'aime beaucoup leur milieu à trois qu'ils avaient hier, je sais pas trop, peut-être plus jouer à 2-6 à 1-10, ça correspondrait peut-être plus au jeu de Neymar, je sais pas trop, mais après ça lui laisse moins de possibilités de rentrer dans l'axe, je sais pas trop,
c'est un petit peu ce qu'on...
C'est des choix de riches, hein.
C'est un petit peu ce qu'on disait avec le coach et avec Jeannot. Juste une dernière question, Lucado, vous qui avez donc affronté le PSG hier, est-ce que le PSG cette saison sera imbattable de ce que vous avez vu en Ligue 1, je parle, hein?
Il y a toujours imbattable, c'est-à-dire 38 victoires.
Non, 38 victoires ou en tout cas 0 défaite, plus exactement.
Pas de défaite. Je sais pas, mais ils vont pas être loin. En tout cas, je pense qu'ils vont mettre des tarifs, hein, cette année. Parce que là, hier, on est ressorti du match, là, on parlait entre nous. On s'en sort bien, hein, parce que franchement, on peut en prendre 5, 6. Il y a des fois où ils s'amusaient.
Si on peut toujours avoir des regrets quand on est joueur de Guingamp, de se dire, bon, on a réussi à atteindre la mi-temps 0-0 et le premier but, on aurait préféré que ce soit un autre but marqué d'une autre façon. On peut penser comme ça aussi.
Oui, non, mais de toute façon, on pense comme ça, c'est sûr. Mais après, sur la physionomie du match, sur le nombre d'occasions...
Évidemment que la victoire de Paris est méritée, ça c'est sûr.
Oui, bien sûr, on va pas dire le contraire. Mais c'est vrai que on sait jamais dans le foot. Pourquoi ne pas les faire douter
Mais voilà.
S'ils n'arrivent pas à marquer, ils restent 10 minutes, ils s'exposent un peu, on peut leur foutre un contre. Ça peut aller vite, mais en tout cas, je serai le premier supporter de Paris, en tout cas en Coupe d'Europe, parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vraiment.
Merci beaucoup, Lucado. Merci
Lucas.
Infiniment, d'avoir été dans l'Intégral Foot.
Et bonne saison.
C'est gentil, merci beaucoup.
T'imagines, 2 jours pour récupérer, ils ont les Guingampés. Aujourd'hui et demain.
Non, c'est sérieux, c'est dire. Tiens, on va accueillir Johan, supporter du PSG, qui attend depuis un petit moment au 32-16. Salut Johan.
Oui, bonjour, salut. Salut à coach.
Salut Johan.
T'as entendu un petit peu ce qu'il disait, Lucado?
Oui, de toute façon, c'est vrai que il y a des équipes en L1, ils vont avoir du mal à les battre, ne serait-ce qu'à les secouer. Après, je pense sincèrement que ils vont mettre peut-être des tartines à tout le monde, parce que vu ce que j'ai vu hier, et encore pour moi, ils ont joué un peu à l'italienne, un peu comme à l'ancienne. Ils ont géré un peu, ils ont joué un peu tranquillement, un peu à la baballe, mais je les ai pas sentis offensés.
Kongoré a essayé des choses, ça veut pas dire que Rudy Garcia par exemple, Bruno Genesio, El Loco, Bielsa, Ranieri, enfin je sais pas, tous ces entraîneurs dont on a beaucoup parlé à l'intersaison ne sont pas déjà en train de réfléchir justement à la façon de jouer. Je parle à Pascal Duprat qui va jouer contre le PSG au Parc avec le TFC, mais c'est vrai qu'aujourd'hui nous les observateurs ou les anciens coachs comme coach Courbis et vous les supporters, on est à même à se poser la question à partir du 14 août, de se dire mais comment aujourd'hui et qui peut arriver à mettre en place une organisation pour perturber le Paris Saint-Germain, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le PSG, peu importe, mais qu'on aime surtout le football, quoi.
Ouais, c'est vrai que ça va. Mais je pense que sincèrement, la tactique que les adversaires du PSG vont élaborer, ça va être la tactique d'habitude, quoi. Ils vont jouer avec le bus derrière, ils vont les attendre, après ça va partir en contre à l'abordage et de toute façon il n'y a que ça à faire, hein, pour cette année, pour battre le PSG, à mon avis, il n'y a que ça à faire. Et j'avais une question à poser à coach.
Vas-y. Oui.
C'est possible, ouais, c'est sur le débat tactique.
Mais bien sûr.
Que penses-tu, coach, d'une nouvelle organisation tactique du PSG en 4-4-2 en losange, avec Pastore en 10, Di Maria et Verratti en 8 et le nouveau là qui doit arriver, là, Juan Foyt, là, je sais pas qui, là, l'Argentin, là, qui doit arriver en ski,
oui,
et deux
lui,
attaquants de pointe.
Il est plus en défense.
C'est un défenseur, ouais, oui, Foyt.
J'ai lu sur internet, il peut jouer ski, ça.
Ouais.
Et en coup, Neymar et Cavani.
qu'est-ce que j'en pense? Tu sais surtout qu'est-ce que je pense? Qu'il faut que tu me prépares avec cette formule-là la liste des joueurs qui ne sont pas sur le terrain.
Ouais.
Et je crois que toi-même, tu vas t'effrayer avec ton idée là.
Mmh. Bressler, notamment.
Essayons, allez, on n'est pas à une minute près. Essayons de la faire ensemble. Quatre défenseurs, ok. Numéro 6, axe.
Verratti, tu mets Verratti.
Allez, voilà. Thiago Motta, tu mets pas.
Non.
Donc tu mets Verratti, après.
Sur le côté droit, tu mets qui?
Sur le côté droit, je désaxe Matuidi, je le mets côté droit et côté.
Allez, arrête de nous effacer. Tu vas nous mettre Areola attaquant, mais ne déconne pas. Allez, Matuidi, il est milieu gauche, il y a un milieu axial, il y a un milieu droit et il y a un numéro 10. Allez, vas-y, qui sont ces quatre joueurs?
Allez, vas-y, rapidement, Yvan.
Alors, rapidement, moi, en fait, c'était dans l'optique où l'Argentin arrivait, Juan Foyt, je mettais Foyt en 6.
Ouais, mais ça va être compliqué, ça.
Bon, allez, alors, après, allez, l'Argentin qui le met en 6. Donc, ça fait,
voilà,
ça après, fait Thiago Motta sur la liste de ceux qui y jouent pas. Allez, vas-y, voilà, après.
J'enlève Motta. Après, en 8 droit, en relayeur droit, je mets Verratti. Relayeur gauche, je mets Di Maria. Numéro 10, Pastore. Et en pointe, Neymar et Cavani.
Donc, ce qui ferait Matuidi, Rabiot, Lucas, Draxler, j'en dois en oublier.
Oui, on en oublie forcément,
Lo Celso, Guedes.
Ça en fait un paquet,
Mais je vais te dire, compte tenu du talent, tu présentes cette équipe, évidemment que le peut battre n'importe quelle autre équipe. Par contre, sur la durée, je sais pas. Moi je serais plutôt pour un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 comme ils en ont l'habitude. Et éventuellement rechercher une troisième organisation, mais si déjà ils pouvaient s'habituer à deux organisations pour pouvoir se permettre de changer en cours de match ou de changer en fonction des adversaires, ou que ce soit à domicile ou que ce soit à l'extérieur, je pense déjà que ça serait bien.
On remercie Johan, supporter du PSG, d'avoir fait le 32-16. On remercie également Jeannot Ressel d'avoir été avec nous. On se retrouve pour le match de
mercredi avec
de
Timothée Mémon, voilà. Pour Naples-Nice, le tour de barrage aller de la Ligue des Champions. Ouais. Alors ça va être compliqué sans Balotelli et sans Schneider, mais bon, on va quand même croiser les doigts pour les Niçois. Ça serait bien qu'il limite la casse au match aller pour essayer d'espérer au match retour.
L'espoir au match retour.
Et on n'oublie pas quand même Marseille, hein. Jeudi, Marseille à Ljubljana contre Domžale et que l'on vivra avec Florent Germain.
Allez, dans un instant, le mercato à 17h, on parle de Monaco et d'Mbappé. On parlera également de la défaite lilloise hier à Strasbourg et puis de la Première Ligue qui a repris ses droits ce week-end. L'intégral foot continue avec Coach Courbis jusqu'à 18h.
RMC, Intégral Foot, Roland Courbis, Arnaud Souk.
16h51 sur RMC, l'Intégral Foot continue jusqu'à 18h avec coach Courbis et avec Martin Bourdin pour le Mercato Show.
RMC, le Mercato Show.
Salut Martin.
Salut Arnaud, salut coach.
On va commencer avec l'un des gros dossiers de ce mercato, Ousmane Dembélé au Barça. Où en est-on exactement?
Eh bien, c'est peut-être en train de se décanter. Ousmane Dembélé continue de se rapprocher du Barça. Ce qu'on sait, c'est que le joueur français est toujours suspendu par son club, le Borussia Dortmund, et que de l'autre côté, le Barça doit agir, ne serait-ce que pour rassurer un peu les supporters après la défaite contre le Real hier soir. Et aujourd'hui, selon les quotidiens catalans Sport et le Mundo Deportivo, le Borussia Dortmund aurait accepté une offre du Barça de 100 millions d'euros. Les négociations continuent quand même entre les deux clubs pour parler des bonus. Dortmund demande 30 millions d'euros de bonus selon les performances du joueur et de l'équipe. C'est beaucoup trop selon le Barça qui aimerait, selon donc ses médias catalans, diminuer soit le montant du transfert et accepter donc ces 30 millions d'euros de bonus, soit diminuer directement les bonus.
Coach, une petite réaction là-dessus. C'est vrai qu'on se pose quand même la question de savoir pourquoi Dembélé va au clash comme ça avec le Borussia.
Ouais, c'est bizarre, il y a un truc qui doit nous échapper, puisque dans un premier temps, ça paraissait tout simple. Il avait eu l'autorisation de discuter avec le Barça pour déjà franchir cette première étape et voir s'il pouvait tomber d'accord. Il est tombé d'accord avec le Barça, donc il restait plus qu'aux deux clubs à s'entendre. Et donc je pensais qu'après les traditionnelles négociations, bonus, pas bonus, ils allaient finir par s'entendre sans que Mbappé puisse partir avec au bras de fer, comme on dit. Non, là, je comprends pas ce bras de fer. Il y a un truc qu'on doit pas savoir qui a dû se passer là.
Ah, le Barça qui en tout cas a annoncé une recrue aujourd'hui, Martin.
Ouais, ce n'est pas la plus spectaculaire. C'est en tout cas pas la star attendue par les supporters pour remplacer Neymar. Paulinho arrive au Barça. Paulinho, c'est l'ancien joueur de Tottenham, recruté 40 millions d'euros en Chine. Il jouait au Guangzhou Evergrande. Il a 29 ans, Paulinho, international brésilien. Il compte 41 sélections. Il doit signer et être présenté jeudi. Et selon Sport et le Mundo Deportivo, le Barça aimerait présenter donc en même temps que Paulinho, Philippe Coutinho. Philippe Coutinho qui n'est pas convoqué pour le barrage de Ligue des Champions avec Liverpool. Ce sera contre Hoffenheim demain soir. Donc Coutinho peut-être lui aussi en instance d'arrivée du côté de Barcelone.
Ressé a peut-être trouvé un point de chute, Martin.
Toujours joueur du Paris Saint-Germain pour le moment l'Espagnol. Il est annoncé en Italie depuis plusieurs semaines, mais selon Sky Sport aujourd'hui, Ressé serait tout proche d'un prêt à Stoke City. Paris aimerait quand même de son côté vendre le joueur carrément pour récupérer une partie des 25 millions investis l'an dernier. En tout cas, celui qui ne partira pas selon son agent, c'est Julian Draxler, l'agent du joueur dit aujourd'hui à Bild que le joueur restera au Paris Saint-Germain.
Et ça, c'est quand même une info assez importante. Alors, il reste encore du temps avant la fin du mercato.
Oui, mais attends, on va pas le présenter comme si Draxler était en train de dire « je reste, que ça vous plaise ou non ». Non, je crois que c'est le Paris Saint-Germain qui a envie de le garder aussi.
Mais encore faut-il le faire jouer. C'est le débat qu'on a eu.
Avant de le faire jouer, il faut déjà qu'il soit opérationnel.
Oui.
Il a eu ses vacances supplémentaires, mais je pense que c'est le joueur qui va être à la limite tout juste derrière les titulaires. Et à la moindre occasion, il sera sur le terrain comme un titulaire.
Allez, Monaco va se séparer de deux de ses jeunes, Martin.
D'abord, Youssef Fait Bennacer. Quand on fait forcing pour récupérer le jeune milieu de terrain, il appartient à Monaco, mais il jouait à Nancy la saison dernière, Nancy avec laquelle il avait marqué 3 buts en 36 matchs. Et puis, Gilles Dias, qui a joué 8 minutes hier avec l'AS Monaco face à Dijon, pourrait être à nouveau prêté, selon la Gazzetta dello Sport. Il pourrait être prêté 2 ans avec option d'achat. Gilles Dias du côté de l'Italie.
Et on termine avec Diego Costa, toujours autant séduit par l'Atlético Madrid.
Ouais, il a donné une interview au Daily Mail aujourd'hui. Ce qu'il dit, c'est qu'il ira à l'Atlético ou rien s'il doit partir de Chelsea. Mais s'il va à l'Atlético, il ne jouera pas avant le mois de janvier, puisque l'Atlético est interdit de recrutement. Diego Costa qui en profite aussi pour égratigner Antonio Conte, qui selon lui n'a pas de charisme.
Ouais, et Chelsea, on en parlera tout à l'heure, coach qui fait pas un très bon début de saison et qui a des soucis à se faire en première ligne.
Ça sera compliqué et même très compliqué de confirmer la saison dernière.
Allez, on remercie Martin pour ses infos mercato. Tout de suite, on va parier.
Les paris RMC.
BMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker.
Christophe Payet nous a rejoint. Salut Christophe.
Salut Arnaud, salut coach.
Bonjour à tous.
Je crois que tu nous proposes de parier sur de la Ligue 2 ce soir.
Oui, et pas un, mais deux matchs de Ligue 2 au programme aujourd'hui. 18h45, Lorient-Châteauroux à suivre sur RMC. Et puis Nîmes-Nancy à 20h45. Alors Lorient-Châteauroux, 1,58 pour les Merlus. 3,45 le nul, 5,50 la victoire des Castelroussins, qui après un excellent début, une victoire à Brest 3-2, après avoir été mené 2-0, eh bien se sont inclinés à domicile contre Valenciennes, puis contre Clermont en Coupe de la Ligue. Donc c'était peut-être un accident, cette victoire de Châteauroux. Et puis Lorient, qui a débuté par un nul à domicile contre Quevilly, puis un nul face au Gazélec, puis encore un nul avec une qualification au tir au but en Coupe de la Ligue à Laval. Ça va s'arrêter, les matchs nuls, coach. Ils vont gagner, Lorient. En tout cas, c'est ce que je vois, moi.
Ça serait une très bonne idée. Ils en ont pas seulement besoin, ils en ont l'intention. Et puis, c'est indispensable maintenant de bien démarrer cette saison.
Surtout que Lorient vise un retour en Ligue 1.
Avec l'effectif qu'ils ont.
Il faut gagner contre un promu.
Tout à fait logique.
Nîmes-Nancy, 2-15, 3 le nul et 3-30 la victoire de Nancy. 2-15, c'est la victoire des Crocos. Ils avaient chuté au premier match, mais à domicile contre Reims, mais ils ont gagné à Lens et ils ont fait un 4 partout en Coupe de la Ligue au Havre, qui est leader. Donc je pense que ça va pas mal, alors que Nancy, c'est pas terrible. Une défaite à Orléans, un nul contre Niort, et ils ont pas joué en Coupe de la Ligue puisque ils avaient tiré Bastia. Donc je joue la victoire de Nîmes à 2-15.
Ben je te suis.
Victoire de Nîmes, victoire de Lorient, on combine ça, ça nous fait une cote supérieure à 3.
Eh ben écoute, on s'en contentera. Hein.
Voilà.
Merci Christophe pour ces paris. Merci Christophe, pardon, si j'allume le micro c'est mieux. Tous ces paris, les paris de la Dream Team sont à retrouver sur rmcsport.fr.
Ciao à tous. PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Allez, dans un instant, dans l'intégral foot sur RMC, on continue à débriefer les autres matchs de cette deuxième journée de Ligue 1. On va parler de Monaco qui s'est imposé 4 buts à 1 à Dijon. Et je vous pose d'ores et déjà de cette question. Je vous la pose d'ailleurs sur le Twitter de RMC Sport. Monaco a-t-il besoin de Mbappé pour réussir? On a le sentiment, en regardant le match hier face à Dijon, que non, que ça n'est pas du tout le cas. On parlera également de Marcelo Bielsa et de la défaite lilloise hier à Strasbourg 3-0 avec un scénario rocambolesque. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.